toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer,
ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
C'est la plus belle.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'écoute du Canu Info du jeudi, nous sommes le jeudi 27 février 2020 et je suis accompagnée comme pratiquement tous les jeudis bien évidemment par Laurent.
Bonsoir Delphine.
Nous avons concocté pour vous ce soir une petite émission comme on le fait de temps en temps, c'est-à-dire à base de culture et d'actualité. Je vais tenter de vous découler un petit peu de quoi nous allons parler. En tout cas, on va parler de Nicole et Félix Le Garec, de Le Lay et Aurélou, de Sébastien Haut, de Salgado, de Todens et de Marc Ruffalo et de Lewis Trondheim. Tout ça pour vous dire qu'on va parler documentaire, BD, exposition, re-BD et cinéma.
Et à travers ces thèmes, nous aborderons l'actualité.
Et oui, c'est surtout toi d'ailleurs qui va faire ça. Moi, je vais plutôt m'en tenir à vous raconter ce qu'on a vu et ce qu'on a lu. voilà, puisque c'est un petit peu tout ça qu'on vous propose ce soir. Et nous allons ouvrir cette émission en vous parlant d'un documentaire qu'on a été voir au CNP, je suis une vieille, au cinéma Lumière Bellecour, hein, dans le cadre de Cannes Classique. Et il s'agit de Plug Off, des pierres contre des fusils, de Nicole et Félix Le Garec. Et juste une petite chose à écouter avant qu'on démarre.
Il ne saurait être question d'imposer aux Français un programme nucléaire auquel ils seraient profondément opposés après avoir été complètement informés. Déclaration de Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, au journal Le Monde, le 26 janvier 1978.
Monsieur le Président, Le Goff.
Cette version que nous ne connaissions pas avant d'aller voir ce documentaire, il faut bien le dire quand même. Alors on va vous parler de ce très beau documentaire, c'est une ressortie puisque c'est un film qui date de 1980. C'est un film qui bénéficie des aides du CNC pour le cinéma de patrimoine, c'est-à-dire que le film a été tourné en 16 mm pour des questions très pratiques à l'époque, très financières.
Pas que financières, des raisons aussi pour tourner. Il fallait tourner aussi. Léger, hein, il fallait tourner sur des lieux de lutte avec des batailles de CRS et tout ça. Et les caméras 35 mm étaient un peu lourdes.
Le film, et c'est ce qu'on appelait à l'époque, hein, et qu'on a appelé pendant longtemps, avant que le numérique a été gonflé en 35 pour être diffusé. Très belle diffusion à l'époque, hein, puisqu'il y a eu plus de 250 000 personnes qui ont vu ce film, qui a beaucoup tourné évidemment dans les salles auprès des militants et des militantes anti-nucléaires, mais aussi tout simplement vu par des tas de gens à l'époque. C'est pas mal pour un petit documentaire. Voilà. Et aujourd'hui, donc, ce film a pu être restauré, ce que c'est une belle initiative, il faut le dire quand même, puisque nous, on trouve que c'est un docu qui doit rester dans les mémoires et dans l'histoire. Alors, pour vous raconter ce Plogoff, c'est en Bretagne.
Tout au bout.
Et il y a une bien bonne idée qui est d'y mettre une centrale nucléaire.
Ouais, alors en fait, il y a un projet de centrale nucléaire en Bretagne et Plogoff, c'est un des 3 ou 4 sites qui est dans les têtes des politiques et de leurs alliés EDF de l'époque. C'est les mêmes. Hein, voilà. EDF était une entreprise publique à l'époque. Et donc, Plogoff est un des 4 sites et Plogoff, c'est le site qui va... sur lequel tout le monde pense que ça va s'installer là-bas, et c'est là où naît la résistance, quelque part.
Et une très belle résistance, ce que ce film nous raconte, donc il date de 1980, c'est d'abord, ça fait plusieurs années que la population est informée des risques du nucléaire, et donc c'est pas juste une idée qui apparaît à un moment, une idée de rébellion ou... comme certains pourraient peut-être le penser dans vos petites têtes, une espèce de nationalisme breton qu'on voudrait pas des choses qui viennent d'ailleurs. C'est quelque chose qui est réfléchi, concerté et surtout très collectif dans cette bourgade de 2000 habitants, un peu plus, hein, on avait regardé avec Laurent
2300 je crois à l'époque
voilà, ça, enfin, ouais. Ça reste une petite bourgade, mais tout le monde ne se connaît pas encore à l'époque parce que chacun vit aussi dans son coin.
C'est étalé, hein, y a ouais. le centre et puis après il y a des maisons éparpillées un petit peu partout.
C'est une ville, une bourgade de marins aussi, et puis c'est une lutte qui va se construire très, d'une manière très intéressante, c'est intergénérationnel. Alors dès que alors ce qui se passe, c'est qu'il y a donc cette enquête publique où on doit demander aux habitants et aux habitantes de bien vouloir dire oui, hein, l'idée elle est là quand même, hein, puisqu'il ne faudrait pas qu'ils refusent de vouloir avoir une centrale, ces braves gens,
hein. Alors c'est les enquêtes d'utilité publique, hein, qui sont obligatoires quand on a des grosses infrastructures qu'on construit. En fait, il y en a toujours eu sur les centrales nucléaires et les habitants en général s'opposent, et l'enquête d'utilité publique conclut quand même à l'utilité de la centrale.
Donc c'est ce là, qui va se passer,
plutôt que ça se passe, les habitants, les habitantes et même les maires.
Ah ben c'est les élus, ouais.
Voilà, les élus vont rejeter l'enquête d'utilité publique et vont d'ailleurs même brûler les cahiers quand ils arrivent. Mmh. Et du coup, la préfecture est coincée. Cette enquête doit avoir lieu, donc ils vont monter des mairies annexes.
Donc il s'agit de petits camions, comme on n'en fait
des
plus beaucoup aujourd'hui, hein, des petites camionnettes, les petites Citroën, et qui sont évidemment barricadées par les services d'ordre, garde mobile, CRS, gendarmes, qui veulent imposer cette enquête pour la démocratie et pour la République, soi-disant. Sauf que tous les jours, et en particulier les femmes, vont venir face à ces uniformes, se planter devant et boucher les accès. Mais en même temps, il y a une telle unanimité dans ce patelin que personne ne veut de toute façon participer à cette enquête. Et puis, j'en avais peut-être deux qui voulaient participer. Mais de toute façon, je pense qu'ils n'ont jamais approché les camionnettes dès le premier jour. Et donc, les femmes en particulier vont se relayer. Et c'est des images qui sont très intéressantes, parce qu'on voit ces femmes qui sont nées à nez quand même avec ces soldats, parfois très jeunes, ces gardes mobiles très jeunes, et vont leur parler, et leur titiller sur des choses qui vont les toucher, et certains sont même déplacés, parce que très vite elles touchent des cordes sensibles chez ces petits genoux en uniforme. Il faut savoir qu'à un moment c'est quand même les parachutistes qui sont envoyés dans ce patelin. Je fais exprès de dire patelin, parce qu'il faut comprendre que c'est un petit lieu avec des gens qui n'étaient pas peu ouvert finalement, c'est les années 80, hein, sur le reste.
Et pas forcément militants.
Voilà, et qui ne s'attendaient pas à devenir des résistants de la lutte anti-nucléaire. Et donc on voit se construire, hein, sur ces semaines de lutte contre cette enquête, le collectif qui se construit sur plusieurs parties. C'est-à-dire effectivement cette lutte de résistance de contre l'enquête publique, face aux camions, face à ces uniformes, et puis évidemment les hommes aussi, de tout âge, qui vont se saisir aussi des pierres, d'où, hein, cette appellation de ce documentaire, des pierres contre des fusils. Alors on a une anecdote très belle, on a ces 4 femmes dans une cuisine intergénérationnelle, hein, des vieilles et des jeunes, avec la petite nappe cirée qui va bien, comme on faisait à l'époque, et l'une d'entre elles dit « Ah, mais au début, on n'était pas bien d'accord avec quand même ces pierres qui étaient jetées, parce qu'il faut savoir qu'il y a des lance-pierres qui sont utilisées à l'époque. Sur place, tout le monde a ça, et puis c'est devenu même un symbole de résistance. On en fait en plastique, on se les met autour du cou. C'est devenu vraiment un symbole à un moment de la lutte à Plogoff. Et elle dit, cette femme, j'étais pas bien pour, mais bon, quelque part, c'était l'instinct, il fallait se défendre. Et puis on avait la pierre sous la main, nous explique-t-elle. Et donc c'est comme ça aussi que finalement, même la solidarité se fait face à des actions de jets de pierre, et puis il y a des grosses barricades qui sont montées la nuit, des voitures qui sont brûlées, ce qui emmerde évidemment les uniformes qui sont obligés le lendemain ou en pleine nuit de démonter les bagnoles, les arbres, enfin il y a un vrai travail de terrain qui est mené aussi collectivement et par des gens qui quand on les voit, on voit beaucoup de femmes qui ont des jupes, parce que c'est encore une époque où, dans certains endroits en France, les femmes ne portaient pas, dans les vieilles générations, de pantalons. Donc on voit de ces femmes avec des petites jupettes au niveau du genou, les petits mocassins, aller comme ça à la manifestation et aller se confronter quand même à la police, qui déjà à l'époque n'était gênée de frapper ni sur les vieilles, ni sur les vieux, ni sur les femmes, ni sur les hommes. C'est-à-dire que tout le monde a pris son grade, a pris du coup de matraque, a pris de la lacrymo, parce que ça a été une résistance qui a connu une répression excessive. Si jamais je peux dire qu'une répression est excessive.
Ouais. Bon, c'est l'époque voulait que la violence était bien, quand même bien plus importante que ce qu'on a connu après les années 80 dans les répressions policières. Et effectivement, il y a tout ce qu'on reconnaît aujourd'hui, puisque la violence policière a remonté d'un cran depuis, de plusieurs crans d'ailleurs, on pourra le dire. Parce qu'on a les mêmes défauts, les tirs tendus de lacrymo. Alors là, ça se voit pas dans le film, mais dans d'autres reportages, on voit bien les tirs tendus de lacrymo de la police pour blesser et non pas simplement pour mettre du gaz pour faire évacuer les gens, le tabassage des femmes et des enfants, il n'y a aucun souci là-dessus non plus, aucun flic sera jamais condamné, mais c'est un peu comme aujourd'hui. Alors le documentaire a un intérêt en dehors de la lutte, c'est l'aspect du film. On a un documentaire à l'ancienne avec des
qui n'est pas une insulte chez nous,
un documentaire calme où il y a des images qui ne servent pas le propos, qui sont une introduction au propos, c'est très posé, on n'a pas de la pédagogie toutes les 5 minutes, on n'a pas des images qui vont très très vite, c'est justement, on prend du temps, on se repose, on découvre la vie, on a le temps de regarder les images, de regarder les détails, comment les gens y vivaient à l'époque. Ben voilà, du coup, y a la forme est aussi, elle, symptomatique d'une époque et d'une qualité de documentaire qui n'existe plus. Le documentaire aujourd'hui, c'est vraiment un truc très pédago, très incisif, très rythmé, il faut pas perdre le téléspectateur ou le spectateur. Là, c'est l'inverse, là. Il y a des scènes, où on a 1 minute 30 où la dame ouvre ses volets. Ça met juste l'ambiance. Et c'est très important, puisqu'on n'a aucune ambiance dans un documentaire moderne, souvent. Là, on est vraiment dedans, on est vraiment avec eux, on est vraiment dans le village. Faut dire qu'ils l'ont tourné avec très peu de moyens, ils ont hypothéqué leur maison. Donc c'est la réalisatrice et son mari ou son compagnon, son mari a priori, puisqu'ils ont le même nom, son mari qui font le film. Lui, il est preneur d'images et de sons. Ils sont que deux. Et elle fait la réalisation. Ils sont là, sur le terrain, avec tout le monde, pendant les 6 semaines que dure cette enquête publique, et un peu plus, de cette enquête publique, qui sera caricaturale, puisque personne ne va y participer, et la conclusion sera quand même positive pour la centrale, c'est le côté drôle. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que la lutte gagne à la fin. Alors, c'est le hasard, c'est le hasard, c'est plus compliqué.
Juste pour reprendre, quand tu dis que la lutte, elle a été positive pour la centrale, c'est parce que l'enquête publique a dit que, c'était bien.
Oui, l'enquête publique conclut que les habitants sont d'accord avec la centrale. Alors voilà. Qu'ils sont tous dehors.
Ah, qu'ils sont tous dehors et qu'ils sont tous les jours, toutes les nuits en lutte.
C'est les pseudo-démocraties, tout ça, on connaît bien. Les enquêtes d'utilité publique, c'est de l'escroquerie. Ah. Et dès que ça touche le nucléaire, c'est caricatural. Et ils gagnent. Alors, pour le coup, là, on a parlé du documentaire, mais il existe une BD, en fait, qui a été faite il y a quelques années. Depuis, elle a été rééditée, la première édition de la BD, j'essaye de vous retrouver, voilà, c'est 2013, donc il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Plogoff, et qui reprend beaucoup de choses qu'il y a dans le documentaire et qui est pour le coup une BD des années 2010, donc avec le côté pédagogique qui explique un peu tout de la lutte. C'est plus pédago, on apprend plus de choses avec la BD, mais c'est moins beau, moi je trouve, que le documentaire. Et on comprend pourquoi à la fin il gagne parce qu'en fait Mitterrand gagne. Vous avez
les
entendu
élections.
Giscard qui avait promis qu'il n'y aurait pas de centrale contre la vie des populations, mais qui est un énorme menteur. Mitterrand, quand il se présente, il a un de ses projets, c'est d'arrêter les projets nucléaires si ça va à l'encontre des populations. Et il va respecter ce truc-là pour des raisons de politique politicienne, parce que Mitterrand était pro-nucléaire quand même. Mais voilà, et c'est effectivement le jour de la victoire de Mitterrand que les habitants et les habitantes de Plogoff savent qu'ils ont gagné. Et voilà, il faudra attendre peut-être 2 ans après le documentaire ou 1 an après la fin de la lutte, voilà, pour qu'ils aient une vraie réponse.
Et moi, j'ai retenu un slogan quand même très très fort. CRS au mazout, CRS au mazout. Celui-là, je le connaissais pas parce que je le pratique peu, vous voyez. Pourtant, je trouve qu'il est vachement bien.
Non, mais le film est intéressant parce que là, on a vu quand dans les manifs des gens qui mettaient l'échafaud pour Emmanuel Macron ou des choses un peu agressives sur les forces de répression. Et voilà, tout le monde s'offusque, c'est une incitation au meurtre, etc. Dans la lutte avec la violence de l'État, à l'époque, ça se faisait beaucoup. Et quand ils disent au mazout, ça c'est bien pour les cramer. Hein. Et d'ailleurs, ils font brûler un flic, ils le pendent. Un flic, une poupée, nature qui représente un flic ou un garde mobile, enfin voilà, un outil de la répression de l'État. Ils le font brûler, cette tradition là c'est pas, voilà, ils souffrent, ils se prennent tout dans la gueule, ils ont le droit aussi de montrer leur mécontentement avec ces images symboliques.
Juste pour dire que donc il y avait Claire Simon au montage sur ce film, voilà, si vous savez, vous voyez un petit peu, c'était documentariste et cinéaste quand même, qui a fait un beau parcours derrière. Donc vous pouvez revoir ce film, a priori ça va rejouer donc au Zola les 5 et 6 mars prochains. Et les 5 et 6 mars, je vais arrêter d'avaler les fins de mots, prochains, donc c'est l'occasion vraiment de découvrir ce film. Si vous le connaissez pas ou si vous le connaissez déjà, d'emmener d'autres gens, ça serait bien, voilà. C'est aussi une histoire sur la solidarité, puisque les gens du Larzac sont allés à Plogoff aider, les gens de Plogoff sont allés au Larzac. Donc, moi, ça m'interpelle quand même beaucoup, parce que je trouve ça très beau, très fort, ces échanges-là, et puis comment à un moment, on se développe aussi dans la lutte.
Le Larzac, c'est aussi le moment de la lutte contre l'installation des militaires. Hein. C'est pile poil cette époque-là. Donc voilà, et puis ça, il y aura sûrement une sortie DVD, hein, parce que là, comme tout a été numérisé et restauré, on aura sûrement une sortie pour ceux qui l'auraient raté. J'ai quelques petites infos nucléaires, parce que malheureusement, c'est la seule lutte, hein, de mémoire, mais il y en a peut-être eu des micros qui ont gagné. On se rappelle des manifestations très très fortes dans la région, là, contre Crémalville, avec un mort dans les manifestants et une roquette lancée contre la centrale en construction, hein, donc de grosses violences. Mais l'État n'a jamais reculé, et leur ami EDF. Alors là, je vais parler des déchets radioactifs, puisqu'on a eu... il y a quelques jours, le gouvernement et l'autorité de sûreté nucléaire qui ont dévoilé officiellement les orientations concernant un truc qui s'appelle le plan national de gestion des déchets des matières radioactives. Donc ça, tout ça, ça fait un acronyme avec moult lettres, je vous le fais pas. Donc il y avait eu, pareil, un pseudo-débat public, hein, avec plein d'intervenants. Bizarrement, la conclusion, elle retient très peu de choses qui ont été émises par le public. Comme d'habitude, hein, c'est juste pour le décorum, pour faire croire que la démocratie directe, voilà, ça existe. En fait, dans les faits, rien, puisque le projet n'apporte pas de grandes nouveautés. Le projet officiel, donc il y aura bien l'enfouissement des déchets radioactifs à Bure. Il y aura aussi une nouvelle construction d'une piscine d'entreposage centralisé pour le combustible usé, alors c'est pas précisé où, mais peut-être encore à La Hague ou des choses comme ça. Alors le rapport va très loin, puisqu'ils disent que ça découle d'un consensus. Alors il n'y a pas de consensus sur les déchets, et encore moins ni chez les spécialistes, ni chez la population, en tout cas ce qui était apparu dans le débat public. Donc voilà, c'est de la belle propagande. Il y a aussi rien sur tout ce qui est considéré comme, non pas comme des déchets, mais comme un futur carburant, c'est-à-dire le plutonium notamment, qui s'empile à La Hague sous l'étiquette matière valorisable. Parce que, vous savez, autrefois on avait prévu de faire des surgénérateurs, à Crémalville notamment, le truc ingérable, ultra dangereux, tout ça. La filière est abandonnée. Et on a toujours ces tonnes de plutonium qu'il faut considérer et basculer dans les déchets, et que le gouvernement n'a toujours pas basculé dans les déchets, et le plan national de gestion des déchets et des matières radioactives ne le fait pas. Donc voilà, il y a plein de choses qui manquent dedans. Grosso modo, c'est un plan qui n'a ni queue ni tête, et on continue dans le nucléaire. Alors toujours dans le nucléaire, vous avez je vais parler de Flamanville. Donc Flamanville, il y a deux réacteurs qui sont à l'arrêt. qui sont en arrêt depuis des mois et des mois. Pourtant, des réacteurs relativement récents, puisqu'ils ont été construits en 85 et en 86. Ils sont à l'arrêt. Alors, le numéro 1 est à l'arrêt depuis le 18 septembre 2019. Donc, ça fait à peu près 6 mois. Et le numéro 2 depuis janvier 2019. Donc, ça fait plus d'un an. On se dit, mais attends, ils ont des centrales à l'arrêt. Qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, ils ont des travaux de mise à niveau. Et a priori, ça marche pas bien, la mise à niveau. L'objectif, c'est de prolonger, comme d'habitude, la vie de ces réacteurs, en garantissant les nouvelles règles de sécurité imposées par l'autorité de sûreté du nucléaire. Ils espèrent, hein, comme ça, EDF décrocher, lors de ces visites dites décennales, une autorisation donc pour 10 ans de faire fonctionner ces deux réacteurs de Flamanville. Alors, ils ont lancé plein de projets, parce que l'autorité de sûreté nucléaire a signalé plein de dysfonctionnements. Et du coup, il y a plein de chantiers et ça marche pas du tout. Et même l'autorité de sûreté nucléaire s'énerve en disant que voilà, il y a des problèmes avec les sous-traitants, il y a plein d'erreurs tout au long du chantier. Des chantiers qui devaient durer un mois, deux mois, eh ben on en est pour un à plus d'un an et pour l'autre à plus de six mois. Ça vous donne un petit peu le niveau de non-maîtrise de ce qui se passe aujourd'hui dans une centrale nucléaire qui date du milieu des années 80, dans deux tranches qui datent du milieu des années 80. Et donc on a la raison pour laquelle ces centrales n'ont toujours pas redémarré, bah parce que les travaux sont pas finis, qu'il y a plein de malfaçons et qu'ils recommencent plein de choses. Alors dans la série aussi de ce qui est en train d'arriver, on va parler de Fessenheim. Et alors Fessenheim, on va en parler avec l'article du Canard Enchaîné d'hier, mais d'abord, on va parler du démantèlement. Alors, on a entendu tout et son contraire. Il y en a même quelqu'un qui a dit bah, ça sera la première centrale qu'on va démanteler. Il y en a qui ont oublié de regarder ce qui s'est passé il y a quelques années, ou qui se passe encore, puisqu'il y a une centrale qui est en cours de démantèlement réellement, en fait. C'est Brennilis, qui a pris pas mal de retard. Le démantèlement a commencé il y a 35 ans. Oh là là, 35 ans. Puisque la centrale est à l'arrêt depuis 1985. Donc le démantèlement est en cours. Les travaux devraient durer jusqu'à 2039, soit 54 ans pour démanteler cette horreur nucléaire. Alors il y a le coût qui intervient. On est à 20 fois le coût estimé par EDF. On rappelle qu'EDF est une société aujourd'hui endettée. Or, officiellement, EDF avait l'obligation de mettre de côté le démantèlement de chaque centrale. Ils ne l'ont pas fait, hein, mais bon, personne ne leur reproche rien, puisqu'ils sont encore aujourd'hui le bras armé de l'État sur la politique énergétique de la France. Donc voilà où on en est. Alors, Brennilis, ça ne marche pas bien, le démantèlement est compliqué, mais il y a encore d'autres choses. En fait, il y a des réacteurs qui ont été arrêtés. Il y en a un qui a été arrêté en 73, qui est toujours pas démantelé. Et en fait, il y a 6 réacteurs qui ont été arrêtés entre 1973 et 1994, dont un pas loin de chez nous, puisqu'il y en a 3 à la centrale nucléaire de Chinon, en Indre-et-Loire, 2 à Saint-Laurent-des-Eaux, en Loire-et-Cher, et un au Bugey, dans l'Ain. Et ces réacteurs, eh ben, ils sont pas démantelés depuis leur arrêt. Alors, il y en a un qui est en cours, ils essayent, et ils y arrivent pas. Donc c'est des réacteurs sur la première génération, c'est uranium naturel graphite gaz, et ils arrivent toujours pas. Et ils ont espoir, hein, parce que l'autorité de sûreté nucléaire fait pression pour que les cinq réacteurs récents qui n'ont pas commencé à être démantelés le soient à partir de 2055. Vous imaginez, ils auront été arrêtés pendant 70 ou 80 ans et ils ne sont pas démantelés. Alors une partie a été enlevée quand même, notamment le carburant, dirons-nous, mais ils n'y arrivent pas. Donc c'est pour dire un petit peu le niveau d'incompétence qui existe chez EDF et le niveau de complexité de ces éléments-là. Et on se dit, mais pourquoi on construit un truc aussi compliqué alors qu'on sait que ça va être encore plus compliqué pour le démanteler? Alors il faut savoir que les générations suivantes de centrales nucléaires ont été construites en réfléchissant un peu au démantèlement. C'était moins con quand même, les ingénieurs. Voilà. Et puis, je vais vous parler de l'article du Canard Enchaîné d'hier. Parce qu'on a eu pas mal de choses sur la fermeture de Fessenheim. On rappelle, hein, il y a un des réacteurs de Fessenheim qui a été arrêté samedi dernier. Et puis, on a vu, on a entendu tous ces pro-nucléaires, ces hommes politiques de droite ou de gauche dire que c'était un vrai gâchis, c'est un cadeau donné aux écolos, une aberration économique, une folie. Enfin, voilà, on a eu tous ces propos qui sont sortis. Et le Canard Enchaîné rappelle plein de choses. D'abord, ils ont 43 ans. ces réacteurs. Alors je sais pas si vous imaginez, 43 ans, c'était l'époque où les voitures c'était des Renault 5 ou des Citroën CX. Je sais pas si vous regardez, montez dans une R5, si vous retrouvez encore une R5, une Renault 5, pas la Super 5, la Renault 5, la toute première génération. Si vous regardez dans quel état c'est, est-ce que vous avez confiance au niveau sécurité dans une R5? Je suis pas sûr, parce que c'était quand même cheap. En 43 ans, tout s'est amélioré techniquement. Là, on a quand même un outil technique qui fonctionne avec la technologie d'il y a 43 ans. Alors bien sûr, on met des rustines dessus, mais c'est que des rustines. Hein. Donc déjà, là, ça devrait nous inquiéter. Et puis, on apprend qu'en fait, d'après le canard, et c'est des bruits qui couraient depuis un petit moment, ils n'auraient jamais eu l'autorisation, ces deux réacteurs, de continuer. Parce que il fallait passer leur fameuse visite décennale, la quatrième, et l'autorité de sûreté nucléaire demande à ce que y ait une amélioration de la sécurité des centrales, et notamment du radier. Le radier, c'est la dalle de béton qui est sous les réacteurs, sous le cœur. C'est 1,20 m sous la centrale, sous Fessenheim. Normalement, c'est 4 m. Alors l'autorité de sûreté nucléaire a dit à EDF, faudrait améliorer ça. EDF a dit, je peux aller jusqu'à 1,50 m. Pourquoi? Parce qu'ils ont la nappe phréatique dessous, au-dessus d'un mètre cinquante. On se dit, attends, mais ils ont construit une centrale nucléaire au-dessus d'une nappe phréatique, ils sont complètement cons. Oui, c'est ça, on peut le dire. Bon, donc bref, il n'y avait aucune chance, en fait, que la centrale, que les deux cœurs, du coup, là, les deux tranches, obtiennent la certification de cette quatrième visite décennale. Donc ce que rappelle cet article d'EDF, dit que en fait, du canard enchaîné, qu'EDF a fait semblant, et les politiques en main dans la main avec EDF, on rappelle que l'État possède encore 83,6% d'EDF et c'est l'État qui fait la politique d'EDF, ont tous joué un jeu d'hypocrisie en faisant semblant, en disant oui, alors vous perdez, on vous oblige à fermer la centrale, donc on va vous donner de l'argent. Donc ils donnent 400 millions de dommages directs à EDF et ils estiment que la centrale aurait pu fonctionner jusqu'en 2041 et ils vont indemniser, donc ça a coûté plusieurs milliards à EDF. Or, dans les faits, la centrale n'aurait jamais passé la quatrième visite décennale, donc l'autorité de sûreté nucléaire aurait demandé la fermeture administrative pour des raisons de sécurité. Et là, tout le monde joue un jeu d'hypocrisie et donc l'État, les impôts, vont donner de l'argent à EDF sur une centrale qui, de toute façon, n'aurait pas pu fonctionner. Voilà, c'est ce qui se passe dans le nucléaire, tout ce qui se passe par derrière, tout ce qui est antidémocratique continue aujourd'hui. On passe à ça, le gâteau ?
Alors, on est allé voir une expo, tu racontes tout.
Ah oui.
Nous sommes allés voir cette nouvelle exposition proposée à la Sucrière, à Confluence, donc, qui s'appelle donc Genesis. C'est une exposition des photographies de Sebastião Salgado. Je vous rappelle que Salgado, il est né dans les années 40 au Brésil, qu'il a fui la dictature brésilienne, qu'il est venu en France, qu'à la base, il n'est pas photographe, hein, il a fait des études d'économie, il a commencé dans le secteur, a priori. Il s'est dit que oulala, c'était peut-être pas tout à fait pour lui, ou en tout cas qu'il avait plus de plaisir à faire de la photographie, et donc c'est devenu un grand photographe, hein. Il a travaillé pour Sigma, Magnum, oui. Voilà, donc c'est de la photographie en noir et blanc, et il est très connu pour ses photos des ouvriers, des pauvres aussi. Il est parfois accusé de photographier la misère du monde, mais
ça,
en même
c'est
temps...
c'est presque tous les photographes qui ont fait du social, en fait.
Donc, ouais,
c'est toujours un peu compliqué,
c'est
ça.
C'est toujours une attaque qu'on fait. Voilà, lui répond à cette critique-là qu'en même temps, bah, il voit pas pourquoi il rendrait les pauvres moches. Donc voilà, il les photographie bien. Là, c'est une exposition qui n'est pas récente, hein, elle a déjà été proposée au début des années 2010, mais qui effectivement répond à des questions et des réactions qui sont dans l'air du temps, c'est-à-dire une exposition assez écolo au final, puisque Salgado propose dans cette exposition une série de photographies à travers le monde, des endroits encore vierges, avec évidemment quelques êtres humains au milieu de cette nature vierge. Des gens qui vivent dans des tribus loin de nos civilisations industrialisées et très polluées, il faut le dire.
Voilà, ça s'appelle Genesis. Du coup, pour lui, c'est de se rapprocher de l'histoire du début de la Terre, en fait. Donc, en montrant des paysages où, effectivement, l'empreinte de l'homme est très faible, voire nul, et en montrant des peuples autochtones, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas basculé dans le monde moderne. Voilà, c'est ça un peu l'objectif de l'expo.
Et donc on a toute une série de salles. Il y a eu plus de 200 photos qui sont présentées. Donc on a le sud de la planète, sanctuaire, Afrique, Terre du Nord, Amazonie et Pantanal. L'idée c'est de nous faire aussi redécouvrir certains endroits où on espère bien que les touristes ne vont pas se jeter, pour nous montrer à la fois que notre terre elle est belle, simplement, et qu'il y a effectivement des choses peut-être à protéger, puisque c'est aussi le travail de Salgado et de sa femme. C'est sa femme qui a supervisé cette exposition. C'est un couple qui travaille comme les Le Garec dont on parlait tout à l'heure, qui travaillent beaucoup ensemble, évidemment. Il faut se souvenir, Salgado, ça a été un communiste, il a aussi une sensibilité du monde qui l'entoure, et il va dans cette exposition vouloir aussi, aujourd'hui encore, nous attirer vers un travail écologique. Il a sur son terrain familial, un domaine, aujourd'hui fait un gros travail pour replanter des arbres et reboiser, c'est-à-dire redonner vie à une nature qui avait été complètement évacuée de son territoire. Donc il accompagne aujourd'hui des questionnements sur l'écologie qui sont assez importantes. Et puis il a aussi beaucoup parlé dans ses travaux photographiques, finalement il a un regard ethnologique, excusez-moi, j'hésite un petit peu sur ma phrase, comment vous l'amenez. Il est d'ailleurs accusé parfois aussi de faire une ethnologie un peu basse et facile, un peu vulgaire. La question pourrait se poser de savoir est-ce que les images sont fabriquées quand il va filmer des hommes et des femmes dans la forêt brésilienne, dans certaines contrées africaines. Donc il y a toujours cette question-là, évidemment, quand on voit ces photos. Maintenant, c'est aussi un portraitiste, donc il sait aussi travailler le regard des personnes qu'il photographie. Et moi je trouve que cette expo elle est assez intéressante dans la manière dont elle nous est présentée. On a de la belle photo déjà, on a un travail en noir et blanc assez esthétique.
Et sur les paysages, c'est assez rare le paysage en noir et blanc aujourd'hui, et Salgado s'en sort très très bien.
Donc ça c'est voilà, moi je trouve que c'est plutôt intéressant de le suivre dans ce travail Genesis, pour terminer effectivement par cette présentation de son travail dans son domaine familial où il reboise. Et donc on peut quand même lui reconnaître d'avoir un travail de fond qui n'est pas juste sa photographie, parce qu'il faut se souvenir qu'il a été attaqué il y a quelques années, par exemple dans certains journaux il a expliqué un petit peu annexe, vous savez c'est la partie de Libération très culturelle, qu'il l'avait contacté pour savoir pourquoi il avait accepté de vendre une de ses photos pour une bouteille de champagne en édition limitée. Alors il n'y a pas d'être humain sur cette photo, c'est un puma, qui est d'ailleurs, la photo est dans cette exposition. D'abord il rappelle qu'il a besoin d'argent pour faire un certain nombre de choses, que faire la photo ça coûte cher, qu'on n'est pas forcément accompagné, même quand on est dans des grandes agences.
Surtout que là, il fait de la photo qui coûte très cher.
Qu'il s'est engagé dans son domaine familial à reboiser. Quand je dis domaine familial, il faut bien croire que...
C'est un truc immense.
C'est immense, c'est pas sa petite courette. Il s'agit quand même de vouloir donner vie à nouveau dans un endroit du Brésil. Le Brésil, c'est très grand, vous me direz, mais là où il s'est installé, c'est quand même phénoménal de vouloir reboiser cet endroit, de vouloir redonner vie à la nature. Et puis, il rappelle qu'il a, au-delà des bouteilles de champagne... à l'édition limitée pour riche, déjà fait de la pub. Donc il fait comme les autres, comme tout le monde, et il n'est pas plus agacé que ça a priori quand on l'attaque, parce qu'en fait tout le monde fait ça, et que vouloir mettre absolument le doigt dans la merde, pardon pour l'expression, pointer des choses qui n'ont pas à être pointées, c'est un petit peu finalement salaud finalement, parce qu'il fait un vrai travail aujourd'hui. Donc nous on vous conseille plutôt cette exposition dans laquelle vous pouvez, il me semble, emmener aussi vos enfants les plus jeunes, parce qu'il y a plein de choses assez faciles à expliquer aux plus petits et même à deux adolescents. C'est un travail plutôt simple, je pense, pour un accompagnant et une accompagnante. Vous pouvez tout à fait vous passer des petits bidules dans lesquels on vous cause. Vous savez, aujourd'hui, toute exposition est accompagnée
d'un audio guide.
Et parfois, c'est bien, mais là, c'est pas vraiment la peine. Je pense que vous pouvez faire l'impasse et vous concentrer sur les textes qui accompagnent les photos, et surtout sur les photos qui sont très intéressantes. Et que dire d'autre, que oui, on pourrait aussi critiquer le fait que ta chaîne, vous savez, cet éditeur qui travaille beaucoup sur l'art, a effectivement une édition à 8 500 euros.
Oui, mais il y a une édition plus abordable,
à 60 balles. Et puis ça se fait dans la photographie, encore une fois, d'avoir des éditions très chères, parce que dedans vous avez du tirage. Il y a souvent quelqu'un d'autre qui a travaillé l'ouvrage pour en faire quelque chose d'exceptionnel, et cet argent d'ailleurs il est aujourd'hui reversé pour faire vivre les projets écolos de Salgado. Donc il faut savoir critiquer justement, et quand on aura à le critiquer plus précisément, nous on le fera.
Après, il y a une vraie qualité photographique chez Salgado, c'est quand même très impressionnant, quoi. Moi je trouve que voilà, on voit pas souvent d'expos comme ça, et parce que tous les photographes n'ont pas les moyens non plus de faire ce genre d'expo et de se balader dans tous les coins du monde. Donc ça vaut vraiment le coup. C'est assez unique. On n'a jamais vu, moi j'avais jamais vu d'expo Salgado à Lyon, donc c'est bien. Alors en lien avec parce que le travail de Salgado, je parlais d'un peuple autochtone, enfin des peuples autochtones, de certains peuples autochtones et du Brésil. Vous savez que, alors le 5 février dernier, le président très autoritaire et très d'extrême droite, Bolsonaro, donc le président du Brésil, a signé un projet de loi, ce qui s'appelle PL 191-2020, qui autorise l'exploitation minière, l'extraction de pétrole et de gaz à grande échelle et d'autres activités destructrices des territoires autochtones du Brésil. Il a été envoyé ce projet à une commission parlementaire pour approbation et devrait normalement être voté par les élus proches de Bolsonaro. Alors Bolsonaro définit ce projet comme un rêve. Ça se fait super peur. En fait, ça fait partie d'une des étapes importantes de sa guerre contre les peuples autochtones du Brésil, puisque c'est vraiment une guerre. Alors, bien que le Brésil ait une loi qui protège un petit peu les peuples autochtones, il s'en fout, il respecte ni la loi brésilienne, ni d'ailleurs le droit international auquel le Brésil a signé certains traités. Alors, il y a de l'opposition, on a par exemple la leader autochtone Sonia Guajajara qui a posté une phrase là sur un réseau et qui dit « Votre rêve, monsieur le président, est notre cauchemar. L'exploitation minière provoque la mort, la maladie et la misère et met fin à l'avenir de toute une génération. Nous n'accepterons pas l'exploitation minière sur nos terres. » La résistance s'organise. On a aussi une députée, Joenia Wipichana, qui est une députée donc autonome, d'un de ces peuples autonomes du Brésil, qui a déclaré elle aussi « L'exploitation minière sur les terres autochtones est illégale et contraire à la Constitution. Elle n'apporte que pollution et mort. Nous ne voulons pas que les rivières, la forêt et les peuples autochtones meurent. » Donc ça résiste un petit peu, il y a des manifestations, des choses qui se mettent en place. Malheureusement, il y a des choses plus négatives, et notamment l'agence gouvernementale des affaires autochtones, qui s'appelle la FUNAI, qui gère un petit peu ces peuples autochtones, voire certains il y a des peuples dans lesquels on n'a aucun contact, et on fait tout pour pas avoir de contact avec eux, pour les laisser vivre leur vie. Et Bolsonaro a nommé un missionnaire évangélique. Alors on les connaît, les missionnaires évangéliques, sur les peuples autochtones, leur but c'est d'y aller pour les convertir à leur religion pourrie. Donc on en est là, et c'est pas un bon signal qu'a fait Bolsonaro, enfin c'est une des étapes supplémentaires dans sa guerre contre les peuples autochtones. Donc voilà, la résistance s'organise, mais c'est compliqué au Brésil aujourd'hui quand on est dans un de ces peuples autochtones, ou des peuples qui n'ont pour l'instant aucun contact avec le monde occidental, le monde moderne, dirons-nous.
Et puis il y a aussi ces groupes qui ont envie d'avoir des contacts avec le reste du monde, mais qui souhaitent continuer à vivre comme ils l'entendent. Et c'est bien ça toute la difficulté, c'est-à-dire à la fois d'être ouvert et de savoir se protéger et de pas de se laisser envahir par la bêtise du monde et par la pollution du monde en particulier. Et c'est là où il faut être solidaire aussi, et puis de savoir par exemple pas faire du tourisme dans certains endroits.
Alors, troisième étape de ce Canu Info.
Rien à voir avec le reste.
Non, on va parler d'une BD, alors c'est toi qui vas en parler.
Ouais, ça me fait rire.
Qui s'appelle... Donc c'est le nouveau Lapino.
C'est les nouvelles aventures de Lapino.
Voilà, célèbre BD de Lewis Trondheim, qui s'appelle Prosélytisme et mort vivant. C'est le retour. Bon, il était un peu pas terrible, Lewis Trondheim, parce qu'il avait arrêté Lapino, il avait dit qu'il ne reviendrait pas, tout ça. Il l'a fait revenir à l'association, ce qui permet à ces structures d'édition de vivre, grâce à Trondheim et à Lapino. Et c'est le troisième tome qui sort du retour des aventures de Lapino. Et t'as bien aimé ce projet.
Ouais, c'est le dernier en date, qui est sorti là en début d'année 2020, il me semble.
C'est ça,
en janvier. Et ça s'appelle Prosélytisme et mort vivant. Déjà, le titre me plaît particulièrement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Lapino, il est avec son copain, Richard. Et puis, comme d'habitude, Richard, il est un peu bébête dans sa tête, des fois, parce qu'il a toujours des idées débiles, il faut bien le dire. Mais nous, on aime bien Richard. Et puis, Lapino essaye un petit peu de le calmer parce qu'il a un petit peu de cadre, Lapino, par rapport à Richard. Et bon, Lapino a une nouvelle copine. Si vous avez suivi l'affaire...
C'est compliqué.
Ça a été compliqué quand même, sa petite vie amoureuse. Et puis sa nouvelle veut aller accompagner quelqu'un qui veut faire des temples athées.
Il est missionné par l'État, voilà, pour monter des temples athées.
Et puis elle l'abandonne. Alors du coup, Lapino se retrouve à embarquer Richard dans cette belle aventure. Et donc, ils partent ensemble. et puis se retrouve avec ce bonhomme qui a pas sa langue dans sa poche, qui dit des horreurs toutes les 3 minutes, avec une espèce de franchise absolument incroyable. Alors on va vous le dire tout de suite, ça se moque fortement des athées.
Ouais, c'est un truc.
Et nous, ça nous fait rire.
Voilà.
Parce qu'on avait aussi envie de se dire, eh ben quoi, on peut se moquer de nous aussi.
Voilà,
il n'y a pas d'autre solution qu'en même temps que l'humour.
Lapido et son copain Richard sont complètement athées aussi. Mais là, ça se moque de l'autre personnage, là, ce mec qui veut installer ses temples athées.
Alors, c'est l'idée de la République d'aller donc dans chaque ville, village, ouvrir un temple. Évidemment, ça ne se passe pas tout à fait comme était prévu, parce que cette espèce de franchise amène évidemment de la bagarre, des réactions, et puis il y a le rejet aussi, tout simplement, d'abord sur place, de la mère qui n'a pas vraiment envie de voir un temple athée, hein. Il n'a pas trop d'arguments d'ailleurs, à part essayer de trouver que des lieux un peu pourris à proposer pour l'athéisme. Alors je me demande bien quelle était l'idée, hein, de la République française de vouloir créer les temples athées. Trondheim ne nous répond pas du tout à cette question-là, hein. D'où ça lui est venu un jour, cette idée absolument incroyable. Et c'est là une succession évidemment d'aventures que vont subir Lapineau et son ami de toujours. Et puis des grandes questions quand même. L'endoctrinement par les athées, est-ce grave? Des morts vivants qui les poursuivent à base de voitures, hein, au volant de leur voiture, est-ce grave? Vont-ils survivre? Vont-ils pouvoir s'échapper à ces hordes d'habitants et d'habitantes en colère, hein, qui veulent pourchasser les athées, les vilains? Mais c'est surtout parce qu'il y a de l'embrouille, comme toujours, avec Lapineau, et c'est ça qu'on aime, hein, évidemment, dans cette BD. C'est très très drôle. Ça se termine vraiment d'une manière très drôle aussi, voilà, c'est-à-dire que bah, les athées, on en prend plein la tronche. De la baston, c'est plein de petites aventures comme on aimait bien chez Lapineau. Moi, je suis très contente de retrouver le petit Lapineau, et puis je suis très contente de cette histoire où franchement c'est bête, c'est absurde, et c'est ça qu'on aime aussi, hein, dans cette histoire-là. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus?
Alors, c'est un truc intéressant quand même. Dans le principe, c'est que c'est un athée qui se moque des athées un peu bizarroïdes, ce qui serait considéré pour un athée comme un blasphème, si on rentrait dans la même structure idéologique que les religions ou les sectes. Mais justement, la force de l'athéisme, c'est qu'on peut aussi se moquer des autres athées. Il n'y a pas eu de réaction outrée des communautés.
Il y a des communautés d'athées, ça, je ne savais pas non plus.
Ouais,
c'est peut-être eux et elles qui ont demandé à ce qu'il y ait des temples athées.
Donc ça montre l'ouverture d'esprit quand même de ceux qui ne croient pas à un personnage imaginaire et qui refusent l'endoctrinement des religions. Donc c'est vraiment intéressant, cette BD, quoi. Voilà, on est dans une liberté quand même assez forte.
Et moi, je vous rappelle encore une fois que vous pouvez lire ce très intéressant, très bel ouvrage qui s'appelle « Ceci n'est pas un blasphème ». C'est écrit par Ariel Kirou et Mounir Fatmi. Ça date déjà maintenant de quelques années. C'est pas très vieux, hein, pour autant. Mounir Fatmi, c'est un artiste plasticien qui blasphème, diraient certains et certaines. Ariel Kirou, c'est l'auteur de plusieurs essais sur, je sais pas, Google par exemple, la révolution du net. Tous les deux se sont intéressés à cette nouvelle question du blasphème qui nous tombe sur le coin du museau à peu près tous les 4 jours. C'est-à-dire que dès qu'on fait une remarque, dès qu'on critique, on rappellera que le blasphème n'existe que pour ceux et celles qui croient.
Parce que pour
nous,
un athée,
c'est compliqué.
Se moquer d'un personnage imaginaire, ça va pas plus loin que, voilà, on a le droit de se moquer des personnages imaginaires.
Voilà, donc là, je vais faire par exemple, je vais faire un propos qui, à mon avis, sera de l'ordre du blasphème. Mais pour nous, Dieu, c'est comme le Père Noël ou les ovnis. C'est-à-dire qu'on existe, on n'a encore pas eu la preuve que les aliens étaient parmi nous, et on n'a pas non plus la preuve que le Père Noël existe. Bon, bah pour Dieu, c'est pareil. Donc là, je viens de faire un blasphème a priori. Pour nous, évidemment, ça n'en est pas un. C'est juste une réalité. Voilà, il y a aucune agressivité dans ce que je viens de dire. Mais voilà, on sait que on pourrait se faire rentrer dedans pour ce genre de propos. Donc voilà, c'est un très bel ouvrage séché. Attendez, je suis en train de vous chercher. Alors, j'ai encore perdu le nom de cette édition. C'est Dernière Marge, excusez-moi. Voilà, c'est donc Ceci n'est pas un blasphème. C'est vraiment à lire. Dedans, en plus, il y a un peu des photos qui rappellent aussi ce que peut être le blasphème. Hein. C'est évidemment une réponse à ce qui peut se passer sur les réseaux commerciaux. Cette violence, hein, constante qu'il peut y avoir sur plein de sujets, mais en particulier sur l'athéisme et sur les religions. Donc voilà, c'est vraiment à lire et pour vous accompagner.
Et bah, du coup, on va faire une petite rubrique ni Dieu ni maître avec quelques petites infos que je vais faire brèves. Alors vous avez vu des émeutiers armés de pierres, de sabres, parfois de pistolets, consommer le chaos et la terreur depuis quelques jours dans les rues de la capitale indienne. Donc ça a pas mal tabassé. Il y a quand même au moins 30 morts. Alors a priori aussi bien des deux côtés, mais grosso modo majoritairement, on rappelle qu'est-ce qui s'est passé. Ce sont des musulmans qui ont fait des manifestations pour dire non à cette fameuse loi là qui a été votée sur la citoyenneté et qui remet en cause l'existence officielle d'une partie de la population musulmane. Ils se sont fait attaquer, ils se sont fait agresser par des hindouistes, et du coup c'est parti voilà en bataille rangée. Faut dire que on était en pleine visite de Donald Trump qui vient soutenir son copain Modi, donc hindouiste religieux d'extrême droite, et donc forcément ça a attisé un petit peu les braises qui étaient encore vraiment toutes chaudes suite à cette loi infâme. Donc voilà, c'est parti en live. Le gouvernement français s'est bien gardé de dire quoi que ce soit. D'ailleurs, on notera le peu de courage de Macron sur des sujets comme celui-là. Alors d'autres choses liées à la religion, alors un truc pas drôle. Là c'était pas très drôle non plus, mais je crois que la religion c'est jamais drôle. Une loi concernant un état en Malaisie, là on a appris que la loi sur le divertissement, ça s'appelle bien comme ça, bientôt en application dans un état qui s'appelle Terengganu, va interdire aux femmes de danser ou de chanter devant des hommes, de proposer des spectacles aux heures des prières, de voir des hommes et des femmes sur scène en même temps. Enfin voilà, il y a une restriction très importante au niveau des arts, en fait, dans cet état malaisien, majoritairement musulman. Alors ça fait beaucoup peur aux personnes qui sont pas musulmanes dans cet état. On rappelle qu'en Malaisie, il y a une grosse communauté plutôt d'origine chinoise. Et eux, ils se disent on n'a plus le droit de rien faire, plus le droit de faire fête. Et effectivement, c'est le but. Hein. Et donc, c'est pas le premier état de Malaisie à faire ça. Hein. Il y en a d'autres autour. Mais c'est juste pour montrer que la religion, grosso modo, n'aime pas vraiment l'art et le divertissement. Et là, il y a une vraie restriction, en plus très restrictive sur les, bon, majoritairement sur les femmes, mais aussi sur les hommes. C'était plutôt les femmes qui étaient visées. La même chose en Arabie Saoudite. Il y a une jeune femme qui s'appelle Azael Sley qui s'habille en rappeuse, qui a fait une vidéo un petit peu drôle avec des lunettes de soleil. Elle a un voile, hein, donc elle respecte les standards de l'oppression masculine de cette région du monde. Elle chante dans un café entouré d'adolescents et elle évoque les filles de la Mecque. Elle dit les filles de la Mecque sont adorables comme des bonbons. Donc c'est un truc sympathique. Et ben elle se fait rentrer dans l'art par le gouvernement de la Mecque qui trouve que c'est une offense aux coutumes et aux traditions. Et qui a demandé l'arrestation de cette chanteuse. C'est la classe hein, quand même, l'Arabie Saoudite. Alors pourtant il y a Mohamed Ben Salman là, qui a essayé de faire croire que ça se modernisait, etc. Ça semble quand même mal parti. Et puis dernière petite info en lien avec la religion, ça se passe au Vatican cette fois. En fait, ce sont des Argentins qui sont au Vatican ces jours et qui essayent de rencontrer le pape. Alors, faut dire que, alors, ils sont sourds et muets en plus. Ils ont été élevés dans un institut catholique pour sourds et muets en Argentine. Et à cette époque-là, ils avaient entre 4 et 17 ans. Ils ont été battus et violés. Belle tradition chrétienne de l'Église catholique, hein, parce qu'il y a eu des abus quand même à beaucoup d'endroits. Hein, ils viennent et ils espèrent que le pape va les recevoir et qu'ils vont arriver à se faire entendre après tout ce qu'ils ont subi. Donc ils parlent en langage des signes, bien évidemment. Pour essayer de faire reconnaître un peu ce qui leur est arrivé. Alors, ils ont eu une partie de reconnaissance par l'Église catholique. On rappelle qu'il y a un an, il y a eu au Vatican, là, une sorte de conférence sur les abus sexuels sur mineurs. Mais voilà, il y a quand même toujours une protection très importante. Et ils essayent de réclamer au moins des dommages. Et pour l'instant, le Vatican ferme plutôt les yeux.
On va parler cinéma pour terminer.
Oui.
On va parler d'un film qui est sorti hier mercredi dans les salles de cinéma. Ça s'appelle Dark Waters. C'est un film de Todd Haynes, mais c'est surtout le film de Mark Ruffalo qui est l'acteur principal principal de ce film et qui est le commanditaire de ce film. C'est lui qui a choisi Todd Haynes, qui était allé le trouver et qui lui a demandé de bien vouloir réaliser un film qu'on n'attendait pas de la part de Todd Haynes, qui nous habitué à faire des films de portraits qu'on aime beaucoup. Carole, sur l'homosexualité et sur les femmes, mais plein d'autres choses. Voilà, et on n'attendait pas forcément le Todd Haynes sur ce genre de film. Alors donc, Dark Waters nous raconte la lutte d'un avocat, Robert Bulot, qui a été connu parce qu'il s'est opposé à une énorme multinationale, Dupont. Dupont, vous connaissez, c'est le Teflon.
Ouais, donc là, le sujet, c'est le Teflon, mais c'est plein d'autres choses.
Mais c'est plein d'autres choses. Mais voilà, Dupont, vous connaissez souvent pour ça, parce qu'il y a quelques années en arrière, quand ce combat mené par cet avocat a été médiatisé et a fait le tour du monde, on a beaucoup parlé des dangers du Teflon. Peut-être souvenez-vous en arrière, parce que maintenant on n'en parle plus du tout. Pourtant le Teflon, il y en a toujours dans les magasins, il y en a dans vos vêtements, il y en a partout.
Il y en a dans certains vêtements maintenant. Ouais.
Ah ben certains, un certain nombre. C'est quand même quelque chose qui est extrêmement utilisé. Donc on avait beaucoup parlé de savoir est-ce qu'il fallait continuer à avoir des poils et faire cuire nos aliments dans ce genre de produits. Et puis d'un seul coup, tout s'est éteint, tout s'est arrêté. Ce qui nous raconte ce film, c'est l'histoire d'un avocat qui est contacté par un agriculteur qui trouve que ses champs, ses bêtes sont malades, et donc va trouver le seul avocat qui semble être connu un petit peu dans ce coin des États-Unis d'Amérique. Et cet avocat est un avocat qui a réussi, qui vient lui aussi du petit peuple, mais qui a émergé, qui a un bon job, qui est dans un gros cabinet et qui finalement va se saisir de cette affaire. C'est 13 ans de sa vie. Ça l'a beaucoup occupé, plus que ça même.
Il a perdu beaucoup d'argent.
Il a beaucoup perdu d'argent, ça je pense a été difficile aussi pour sa vie familiale, mais il s'est accroché et puis il s'est battu et Dupont a fini, on vous révèle la fin parce qu'elle est extrêmement connue, par sortir un peu le porte-monnaie et faire quelques dédommagements. Mais il faut dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont mêlés de cette affaire, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont allés contre Dupont, réclamer des choses, de l'information et puis de l'argent pour réparation.
Ouais. Alors, on rappelle, c'est un film de fiction, mais c'est tiré donc de l'histoire vraie de l'avocat. C'est pas un documentaire.
Donc, on parle de la pollution dans ce film. Voilà. Et mais, pollution de l'eau, vous l'aurez compris, avec Dark Waters.
Alors, pas que ça, parce que, en fait, Dupont, ils vont aller tellement loin. Alors, que les premières personnes à être malades, en fait, sur ce téflon, alors c'est un truc qui a été découvert pendant la Seconde Guerre mondiale, utilisé par l'armée, en fait. Hein. Et ils essayent donc d'en faire un produit pour le civil et pour gagner de l'argent avec. Et les premières personnes malades sont les hommes et surtout les femmes qui travaillent sur les chaînes de fabrication de ce produit chimique. Donc là, ils commencent à avoir des doutes, notamment sur les femmes enceintes. Et en fait, Dupont va aller très loin, puisque au départ, il retire les femmes enceintes de la chaîne et puis après, il les remet. C'est-à-dire qu'ils vont expérimenter, ils vont regarder ce qui se passe sur les êtres humains, l'influence de leurs produits. Donc ils vont faire de l'expérimentation humaine en mettant les ouvriers et les ouvrières sans protection avec ces produits-là. Alors ils vont faire même des chewing-gums au téflon pour voir l'impact que ça a.
Oui, ils les proposent aux ouvriers de l'entreprise pour leur dire « Tenez, regardez, ça va être bien. »
Et donc ils vont faire de l'expérimentation humaine. Donc les condamnations qu'ils vont avoir, qu'on voit à la fin du film, finalement c'est rien par rapport à ce qu'ils ont pu faire. Hein, les mecs ils n'ont pas fini en tôle, ce qui est malheureux.
Parce que c'est des compensations financières.
Voilà, c'est des compensations financières. Donc ils ont bousillé la vie d'une partie de leurs salariés, et puis ils ont bousillé une région...
En Virginie-Occidentale, j'aurais pu le dire tout à l'heure.
Le téflon a un défaut, c'est qu'il est indestructible quasiment, donc en fait il se retrouve dans la chaîne alimentaire, et après il persiste.
D'après les études, on a tous du téflon en nous, parce qu'on ne l'évacue pas, il reste là.
Ils disent que 99% de la population aurait du téflon dans son corps.
Donc c'est assez impressionnant.
Sauf les peuples autochtones, peut-être.
Voilà, c'est ça. Donc...
Mais c'est triste. Alors, on ne sait pas la dangerosité des faibles quantités sur le téflon. Par contre...
La production là qui pose problème, évidemment, au début.
Et la pollution des eaux, elle est flagrante. Hein. Les dangers sont connus depuis très longtemps. Et ce qui est intéressant avec... Le film, c'est un film sur la justice américaine. C'est toujours un peu pénible, moi, je trouve, parce qu'on n'est pas américain et qu'on ne comprend pas tous les ressorts tout le temps. alors peut-être des fois si c'était sur la justice française c'est pareil, mais donc du coup il arrive à récupérer, il fait une saisine là je sais pas quoi, et il récupère toutes les archives de Dupont
et qui le noie sous les documents, hein, comme
qui
souvent
le noie sous les documents exprès,
multinationales,
voilà. Mais du coup il a quand même toutes les archives et il passe des heures et des heures et il va trouver tout ce que Dupont
je
a fait.
Que tu peux dire des mois et des mois.
Oui, des mois et des mois. Et il va trouver les études que Dupont a fait et qui constate la dangerosité du produit quand même. Ça va très loin. Donc voilà, il y a tout ce côté alors, justice qui est un peu fastidieux, mais qui montre la réalité du travail de cet avocat.
On n'est pas sur le même terrain que Erin Brockovich. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, qui là aussi s'attaquait à une multinationale, mais il y avait un petit côté un peu plus vif et thriller. Là, Todd Haynes a choisi un mode narratif plus calme, plus judiciaire dans son approche, ouais. Mais surtout, bon, moi ce que je regrette un peu, c'est qu'on a des personnages autour qui n'ont pas le temps d'exister, mais parce que le film fait déjà plus de deux heures et qu'on nous parle de plus d'une décennie de travail et de recherche. Donc c'est un film qui rend hommage finalement à cet avocat, à cet homme qui a quand même sacrifié plus de 10 ans de sa vie, hein, pour une cause auquel au début il avait pas trop envie d'aller.
Il va à reculons.
Il va un peu à reculons, et puis bon, c'est peut-être touché par ce qui s'est passé, parce qu'il vient aussi de ce coin de Virginie occidentale que finalement il finit par réagir. Et puis voilà, brutalité des corps, parce que les corps de ces hommes et de ces femmes sur place sont meurtris, les gens sont malades, il y a des cancers, ils ont perdu leur exploitation, perdu leur bétail, et tout ça, ça, on peut penser que ça l'a quand même touché. C'était pas juste parce que c'est les paysans amis de la grand-mère qui sont venus le voir. Voilà, c'est quand même aujourd'hui on appellerait ça un lanceur d'alerte, il n'avait pas été avocat. Pourtant, c'est voilà, il a fait son job, très clairement, mais il est allé bien au-delà, il a donné de son temps, de son travail, de son énergie, de sa vie de famille et de son pognon, puisqu'à chaque fois que il y a eu, vous savez, faire des enquêtes judiciaires comme ça, c'est-à-dire être avocat aux États-Unis, c'est engager beaucoup d'argent avant peut-être de pouvoir récupérer si vous avez pris un engagement sur une partie de ce que Dupont a pu verser à la fin. Mais il faut sortir l'argent et son cabinet va lui enlever à chaque fois un peu de son salaire pour pouvoir prendre en charge les frais qui sont amenés par cette enquête auprès de ce cabinet. Et puis c'est très long, c'est des années quand même, hein, donc c'est des pertes de salaire, même si au début il devait quand même bien toucher, on va pas le plaindre non plus, qui sont réelles. Et puis on a aussi une population qui à un moment va se sentir concernée, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'on a aussi une population qui s'en fiche parce qu'elle a pas de symptômes apparents et parce qu'elle ne voit pas ses enfants être touchés et, directement. Et pourtant, on a plus de 60 000 personnes qui vont se faire tester. Et c'est plus de 60 000 personnes qui vont amener la plus grande enquête épidémiologique aux États-Unis et qui vont permettre de faire un travail médical considérable et de dire, oui, on a une preuve irréfutable. Ces matériaux, hein, ce fameux C8 qu'on va appeler le téflon, est un vrai problème de société et environnementale, une vraie pollution, et on a plus de 60 000 personnes pour le prouver. C'est un travail qui a pris beaucoup de temps, parce qu'au début, ils pensaient avoir peut-être que 1 000 personnes, et que finalement, le travail aurait été plus rapide. Mais là, c'est plus de 60 000 personnes, ça a été considérable, et ça a ralenti beaucoup, finalement, la répercussion contre Dupont. Il a fallu attendre, ça a été un travail de patience aussi, et alors, de recherche.
Après, faut imaginer, si vous êtes allé à Clermont-Ferrand, vous savez de quoi je parle avec Michelin, dans cette région-là, la grosse usine, c'est l'usine Dupont, voilà, l'école, elle est sponsorisée par Dupont, le terrain de foot, il est fabriqué par Dupont, il y a Dupont partout. Donc en fait, tous les gens vivent à travers Dupont, et du coup, ils ont tendance à pas attaquer cette multinationale qui les fait vivre et qui leur donne plein d'argent. Voilà. Ils vont être obligés quand même de donner $400 à tous les gens qui vont se faire tester, ouais. Pour leur dire, nous on veut bien votre sang, mais on vous donne de l'argent, parce que s'ils font pas ça, ils ont personne. Donc c'est un peu triste, hein, quand même, quelque part, de voir ce truc-là, mais ça va marcher. Et effectivement, l'étude épidémiologique va être concluante dans le mauvais sens du terme. Et puis à la fin, bon voilà, Dupont va être condamné. Mais légèrement, en fait, il gagne $1 milliard par an avec le Teflon. Et au final, ils seront condamnés à bien moins que ça.
671 millions. Alors l'affaire n'est pas finie, hein, puisque c'est toujours en cours. Mais finalement, ça paraît être une goutte d'eau. Surtout que Dupont a accepté de payer au final, parce que ça permet aussi de faire taire les gens, hein, puis de calfeutrer les choses. Alors, mais non, un film comme ça fait ressortir l'affaire. C'est plutôt une bonne chose. C'est un film militant, hein, pour Marc Ruffalo, très clairement. Donc c'est un engagement. Alors le film n'est pas totalement réussi. Je trouve qu'à la fin, on perd un petit peu dans son énergie. Mais le début est absolument magnifique. Le film se trouve, hein, hors cinéma. Moi, je vous invite à le découvrir en salle. Ça fera toujours un peu la nique à Dupont. Parce que plus on est nombreux et nombreuses à aller voir un film comme celui-là, plus on va reconnaître le travail de Marc Ruffalo et de Todd Haynes. Et plus les multinationales peuvent se dire, ah, oh, bah, zut, alors ils sont pleins et t'allais le voir quand même. Bon, je pense qu'au final, ils s'en fichent, mais quand même. C'est aussi une marque de ce que nous, on peut faire. Et puis, on parle d'écologie aujourd'hui tout le temps. Toutes les publicités pour vous vendre n'importe quoi sont verdies pour nous expliquer qu'ils feront un vrai travail. Et bon, bah, c'est peut-être l'occasion aussi de montrer qu'on a aussi des engagements et qu'on surveille ce genre de multinationales.
Ouais, bah, dans les infos en lien avec la pollution et toutes ces choses-là, deux petites choses rapides. Rapidement, pour terminer ce Canu Info, hier, il y avait la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale qui donnait le coup d'envoi du débat sur la réforme de l'audiovisuel et on parlait, il y avait eu des propositions pour faire interdire les pubs pour les produits alimentaires et les boissons trop sucrées, trop grasses et trop salées qui touchent les produits, les programmes que regardent les enfants. Et ben, le gouvernement s'est opposé. Voilà, juste pour donner le symptôme, enfin c'est assez symptomatique du libéralisme, hein, et Macron et son gouvernement, ils sont libéraux, c'est que l'économie est plus importante que la santé des enfants, et donc voilà, c'est triste, hein, Foodwatch, qui est une ONG qui se bat contre ça, a gueulé, mais ça changera rien, effectivement, pour l'instant, on a le droit de faire de la pub pour des produits pourris que mangeront les enfants. Et sur les pesticides aussi, on a un recours là, de 9 organisations, un peu ce qu'on connaît déjà, hein, France Nature Environnement, Génération Future, OE Rivière de Bretagne, l'UFC Que Choisir, l'alerte des médecins sur les pesticides, etc., etc., qui ont fait un recours devant le Conseil d'État sur la directive, sur deux choses en fait, sur l'arrêté pesticides et le décret qui l'accompagne. Vous savez, c'est ce que le gouvernement a fait passer en disant, voilà, vous avez droit de mettre des pesticides, mais il faut respecter des distances de quelques mètres avec les habitations, les cours d'école, les choses comme ça. Or, les études scientifiques disent qu'il faut plutôt des dizaines, voire des centaines de mètres pour que l'épandage de pesticides n'abîme pas la santé des personnes qui habitent autour. Donc voilà, ils vont devant le Conseil d'État pour essayer de faire changer ce texte. Ils avaient déjà réussi, hein, parce que la première version du texte ne donnait pas de distance. C'est allé au Conseil d'État. Le Conseil d'État les avait taclés, le gouvernement qui a remis sa copie, qui est une copie toujours pourrie. Donc voilà, ils continuent en espérant que le Conseil d'État continue d'aller dans le bon sens.
On va vous laisser parce qu'on est déjà un peu à la bourre, il me semble, parce qu'il y a de la suite, hein, derrière, je les vois derrière les vitres du bocal. On va se retrouver, nous, la semaine prochaine, normalement, si tout va bien. Nous serons donc normalement au mois de mars et on vous souhaite une très très bonne soirée sans téflon et sans pollution. Ciao, ciao.
Y a-t-il trop d'étrangers dans